sur Radio Canu. Et évidemment, nous allons vous parler du dernier rapport de l'OEDT. En tout cas, ce qu'en ont sorti...
de l'OEDT.
L'OEDT.
L'Observatoire Européen.
Ah oui, j'ai dit...
OEDT. OF. Mais non, oui. Là, c'est le rapport de l'Europe, là.
C'est une erreur de ma part. Donc, c'est bien l'OEDT, bien sûr.
Et qui dit, en gros, que, comme d'habitude, en fait, parce que ça finit par devenir une habitude, hein, c'est-à-dire que la France est, encore une fois, sur le podium, voire sur la plus haute marge du podium, en fait, du taux de consommation de drogue, et notamment de cannabis, en Europe. Voilà, alors bon, on nous dit quand même que plus de 80 millions de personnes, c'est-à-dire près d'un quart de la population adulte de l'Union européenne, a déjà consommé des drogues illicites. Ce qui est énorme, quoi. 25% des Européens ont déjà utilisé une substance psychotrope illicite. Et quelle est la drogue illicite la plus consommée en Europe? Je vous le donne en mille. Eh bien, c'est le cannabis. Et c'est normal, je dirais, entre guillemets, à partir du moment où c'est une drogue qui est culturellement aujourd'hui complètement intégrée dans les usages des Européens, jeunes ou plus jeunes ou moins jeunes. On sait aussi que c'est globalement pour cette substance-là, dans 60% des cas, plus de 60% des cas, que les infractions liées à la drogue en Europe sont commises et qu'il y a une action policière, quoi, en fait. Parce que si on nous dit que plus de 60% de toutes les infractions sont liées à la drogue en Europe sont liées au cannabis, c'est qu'à un moment les flics s'en sont mêlés, quoi. Voilà. On nous dit plus loin que c'est les 15-34 ans qui seraient les plus concernés. Donc voilà, je repars, hein, la France, pays qui compte la part la plus importante de personnes ayant déjà consommé du cannabis, 40,9% de la population française entre 15 et 64 ans a déjà fumé. Et donc un chiffre qui place l'Hexagone loin devant le Danemark, l'Espagne et les Pays-Bas, trois pays où globalement les lois sont beaucoup plus souples.
Oui.
Qu'en France, où il y a une tolérance pour les Pays-Bas grande, enfin une tolérance,
assez,
une autre tolérance.
Assez grande depuis longtemps.
Voilà, depuis 76. Depuis 76. Qui a été restreinte à cause de Jacques Chirac, notamment.
Oui.
Pour ne pas le citer, parce qu'il a quand même vraiment bataillé dur pendant une bonne vingtaine d'années. C'était il y a longtemps, mais il n'est pas forcément arrivé à ses fins d'ailleurs. L'Espagne est aussi un pays où il y a une plus grande tolérance. Le Danemark, c'est bizarre. Hein. Il y a des lois très dures, mais en même temps, il y a une tolérance. Alors bon. Voilà. Alors, les jeunes adultes français entre 15 et 34 ans sont également les plus gros fumeurs de cannabis. 22,1% d'entre eux en ont consommé au cours des 12 derniers mois, alors que la moyenne européenne pour la même tranche d'âge se situe à 11,7%. Donc, ils sont deux fois au-dessus de la moyenne, en fait. Enfin, ils ont le double. Voilà. Et par rapport à 2012, déjà en 2012, l'OEDT estimait que la France était déjà la première consommatrice de cannabis en Europe. Et en 2015, l'OEDT confirme cette tendance et indique que cette consommation est aujourd'hui en hausse. En hausse par rapport en 2012. Déjà qu'en 2012, en gros, on disait qu'on était très, très loin devant, quoi. Ce qu'on nous explique aussi, c'est que le taux de substances actives dans l'herbe, dans le cannabis, est plus important. Pourquoi ? Il y a une grande innovation technique, la concurrence sur le marché, la production d'herbes de cannabis s'est donc intensifiée des dernières années sur le continent. Et on nous dit que il y a d'une part le travail de petits cannabiculteurs soucieux d'un produit de qualité, d'autre part celui de réseaux de type mafieux, et qui seraient donc attirés par les bénéfices, et ceci pousserait les producteurs de résine marocaine, majoritairement, à améliorer leurs produits pour rester attractifs. Et qu'on nous dit aussi que les teneurs moyennes en principe actif de l'herbe ont du coup doublé en 5 ans, et celles de la résine aussi en 10 ans. Moi je suis toujours très circonspect quand on me dit ces choses-là, surtout quand en plus on ne nous donne pas
de source
ni de chiffres. Et du coup on ne sait pas d'où ça sort.
Les laps de temps sont dans les choses raisonnables.
Pardon ?
Ces laps de temps commencent à être dans les choses raisonnables. On sait que depuis 10 ans, on mesure régulièrement, voire même...
Oui, alors effectivement, tu le dis, mais depuis 10 ans, seulement.
Depuis seulement
10 ans, quoi. 10 ans, ouais. 10 ans. Et d'autre part, quand on nous parle d'une augmentation et tout, faudrait quand même que ces gens-là se rendent compte que c'est pas tous les consommateurs de cannabis ou même les gens qui en cultivent qui utilisent tous des graines extrêmement chères, avec des principes actifs extrêmement dosés. Beaucoup de gens ne comptent pas sur les graines, fonctionnent avec des systèmes de boutures, donc c'est plus du tout la même, enfin c'est pas vraiment la même plante, c'est un clone certes, mais le principe actif n'est pas le même. Tout le monde n'a pas la possibilité de cultiver 150 ou 200 plantes chez lui non plus. Bref, bon, beaucoup d'approximations, voire d'idées fausses, je trouve, quand on se réfère à tout ça. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur ce rapport de l'EDT, un article relativement complet dans 20 minutes, mais avec l'AFP notamment, le 4 juin dernier. Voilà un peu pour l'EDT. On va maintenant s'intéresser un peu à la Suisse. Qu'en penses-tu?
T'es d'accord? C'est plutôt à la, à la guerre à la drogue, protège-t-elle vraiment de nos enfants? Faire un rappel pour.
Eh ben, en avant. En avant. Oui, très bien. Alors, la guerre à la drogue protège-t-elle vraiment nos enfants? Bonne question. On en a déjà un peu parlé ici. On avait un peu parlé de cette nouvelle campagne qui était lancée conjointement par l'AFR, un think tank qui s'appelle République et Diversité. Il y a aussi le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires, qui s'appelle Guerre aux drogues, guerre raciale. Donc, à l'occasion de cette journée, soirée, débat, le 17 juin prochain, à laquelle s'est associé le CIRC, et donc l'AFR et Guerre aux drogues, guerre raciale, est intitulé donc ce débat La guerre à la drogue protège-t-elle vraiment nos enfants? Donc ça se déroulera mercredi 17 juin au local de Médecins du Monde à Paris, 62 avenue Marcadet à Paris 18e, à partir de 19h30, pardon. Donc oui, c'est pas très local, c'est parisien. Voilà, si vous voulez plus d'informations, il y a un programme avec un texte très bien rédigé que vous pourrez trouver sur le site internet de l'AFR, de guerre aux drogues et raciales, gdgr.fr, ou directement sur le site internet du Cirque Lyon, où vous pourrez retrouver toutes les informations, cirque-lyon.fr. Je vais vous lire le petit communiqué, le petit texte quand même qu'on a sous les yeux, vas-y.
Très rapidement, on peut dire que depuis 1970, donc depuis 40 ans... Hein, 45 ans, voilà, même. Ouais, 45 ans, c'est la mise en place d'un nouveau phénomène, celui de la guerre à la drogue. La répression qui s'abat sur les hippies, puis sur les punks, et aujourd'hui sur les jeunes des cités, se réfère à une idéologie très différente de celle qui animait la police de papa lorsqu'elle menait ses razzias sur la schnouf. Après, il y a différentes choses. Puis aujourd'hui, le champ de bataille est de plus en plus circonscrit aux cités de banlieue, désignées comme scène majeure de vente de cannabis, la principale drogue illicite consommée. Alors, en fait, ce qu'on sait très bien, c'est là que j'en rajoute deux mots, hein. On sait très bien qu'il n'y a pas plus de jeunes dans les cités qui fument que dans le reste de la population, et, y compris dans les dealers, il n'y en a pas plus... Il n'y en a pas plus chez les familles immigrées que dans les autres. La nuance, c'est plutôt au niveau social.
Policière, en fait. Surtout que la police et la justice se focalisent sur ces personnes-là.
Je veux dire, quand on raisonne au niveau social, en regardant par rapport aux statistiques sociales, aux revenus des parents, on s'aperçoit qu'il y a une homogénéisation. Voilà, là on y arrive plus à voir que ça s'établit, on arrive à faire des groupes, alors qu'on ne les fait pas du tout de façon, si on regarde des critères ethniques, puisque si on fait jouer le salaire au milieu, ça revient un peu au même, bien que, voilà, on sait très bien que la guerre à la drogue est aussi une guerre raciale.
Oui, je ne sais pas si tout le monde a bien compris ta petite analyse, c'était pas très très facile à comprendre, mais bon, bref. Donc,
c'était une petite digression.
Alors, on va retourner dans le texte, c'est assez clair si tu veux.
La politique du chiffre est devenue depuis une vingtaine d'années le seul critère déterminant de l'action des forces de l'ordre, au risque de les voir se couper définitivement des habitants des quartiers. Voilà un peu, et ils finissent par, depuis peu, l'Uruguay et un nombre grandissant d'États américains ont choisi le chemin de la réforme et se livrent à une véritable révolution en matière de politique des drogues. Ils ont su s'adapter leur législation aux mœurs de leurs citoyens plutôt que de s'obstiner en en criminaliser un nombre croissant. Voilà un petit peu le débat.
Alors, participeront à ce débat, outre les intervenants, je pense qu'il y aura quelqu'un du cirque, il y aura quelqu'un de l'AFR, quelques-uns même, quelques-unes. Mais en guest star, Esther Benbassa, donc sénatrice Europe Écologie Les Verts, auteure d'une proposition de loi sur la réglementation de la filière récréative et thérapeutique du cannabis, débattue au Sénat au mois de février dernier. Il y aura également un policier, M. Marc Lamola, donc ancien policier, qui a écrit un livre qui s'appelle « Quand j'étais flic » aux éditions Fauve. Voilà, alors c'est super qu'Esther Benbassa participe à ce débat. Je le regrette un tout petit peu personnellement, parce que si elle n'avait pas participé à ce débat du 17 juin, elle serait venue à l'appel du 18 juin à Lyon. C'était prévu, pour des raisons d'agenda, de présence ici et là, bon, bah, c'est pas trop possible. Madame Benbassa est plutôt sur Paris, alors c'est plus compliqué pour elle de venir à Lyon. Et puis nous, on est la province, on sait bien. Mais sinon, elle serait probablement venue. Peut-être l'année prochaine, on verra Esther Benbassa avec nous au 18 juin à Lyon. Voilà, et en attendant, je vous invite encore une fois à vous rendre sur les sites internet du Cirque Lyon, cirque-lyon.fr. Vous pourrez donc relire ou vous informer un peu mieux sur ce débat, la guerre à la drogue, protège-t-il vraiment nos enfants ? Vous pourrez également, si vous le souhaitez, prendre connaissance de la campagne guerre aux drogues, guerre raciale, et où en fait on recherche des témoins et des personnes qui ont eu à subir les foudres de la justice en raison de leurs origines ethniques. Et en tout cas, si ces personnes pensent que c'est à cause de leurs origines qu'on a pu les contrôler, les fouiller, les mettre en garde à vue ou en détention, pour une raison liée à la drogue, voilà, on a besoin de témoignages pour montrer, démontrer de manière objective et je dirais indiscutable combien et comment cette guerre à la drogue est effectivement une guerre raciale et aussi une guerre sociale. Je reprends un peu ce que tu disais. Ça va bien ensemble, malheureusement, en tout cas pour la police et la justice. On lutte surtout d'abord, à mon avis, plus contre des pauvres et comme... il y a tellement de discrimination que c'est plutôt les migrants qui sont victimes de ces discriminations. Pauvreté, caractère ethnique, ou en tout cas la caractérisation de l'ethnicité, parce que moi je trouve que c'est quand même plutôt ça, font que voilà, on a une population qui est vraiment la cible de la guerre à la drogue, qui est considérée comme les autorités, la justice et la police, comme étant celles et ceux qui... contre qui il faut lutter et qui sont ceux qui pourvoient, et procurent, vendent. Voilà. Et comme tu disais, c'est faux. C'est une croyance, puisque le trafic de drogue, quel qu'il soit, il y en a dans tous les milieux sociaux. D'ailleurs, c'est écrit dans. C'est ce que disaient un peu les appelants à l'appel du 18 juin en 76, au début de leur l'appel du 18 juin. Alcool, cannabis, médicaments, pastis, héroïne, drogue, bref, tout ça. Il y en a de partout. Il y en a dans les cités, certes, mais il y en a certainement dans les journaux, dans les télés, dans les ministères, dans les... Voilà. Et par contre, on sait bien que la police ne va pas là-bas faire la chasse et la guerre à la drogue. Et il faut se bouger pour faire ressortir ça de manière éclatante et limpide. Voilà. Et indiscutable. Parce que quand même, c'est ce qu'on nous renvoie par-dessus dans la figure, hein. Oui, mais vous dites des bêtises, c'est pas vrai, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de ciblage des autorités. Non. Et puis, c'est faux de dire qu'on ne met plus personne en prison, parce que ces personnes-là qui sont les victimes, les premières victimes de la guerre à la drogue, elles vont en prison. Et elles y vont aussi pour des toutes petites quantités. Alors, c'est facile de dire qu'on ne met plus personne en prison, c'est sûr que si on se désintéresse de cette partie-là de la population et qu'on ne veut pas voir les violences qu'elle subit, bah forcément, on met plus personne en prison. Et bah, c'est facile. Voilà. Allez, on continue notre revue de presse.
Ouais.
En Suisse, alors. En Suisse. Alors en Suisse, bon, les choses évoluent, mais au niveau de la justice encore, les lois sont pas passées. Alors même si on est malade et qu'on cultive du cannabis et qu'on s'échange des boutures entre cannabinophiles et malades, eh ben aux yeux de la loi, ça passe pas. Hein. C'est un article de la Tribune de Genève qui s'est vu des individus donc se sont vus condamnés par la justice. Alors ils étaient 3-4, je me rappelle plus, j'arrive pas à les retrouver. Bref, en tout cas la justice leur a dit ben vous saviez très bien que vous contreveniez à la loi sur les stupéfiants parce que ils étaient 4, voilà. Et parce que en gros dans la loi, c'est pas possible de enfin on peut pas autoriser l'échange la consommation de cannabis donc ils ont été condamnés et donc voilà, ouais, excusez-moi, je retrouve la phrase cultiver, donner et vendre des boutures de chanvre contrevient à l'article 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants. Voilà ce qu'a dit la juge. Les prévenus donc le savaient et le juge n'y peut rien, il est là pour appliquer la loi en vigueur, et c'est ce qu'il a dit aux prévenus, ouais, et non pas pour la changer.
Ils en utilisaient pour eux et ils en donnaient aussi et oui. Au sein de leur association.
Et oui, parce que voilà, ils faisaient partie d'une association alternative verte. Consistait justement, c'est un cannabis social club en fait.
Une certaine voilà. Médicale, oui, tout à fait.
Voilà. Alors, ils ont quand même été bien défendus par Maître Saskia Dittisheim, qui était leur avocate, et elle demandait que ses clients soient acquittés ou exemptés de toute peine compte tenu du fait qu'ils prenaient du chanvre pour soulager leurs maux et que la loi était en train d'évoluer sur ce point. Et en effet, le Conseil national vient en effet d'adopter une motion réclamant qu'on se penche sur l'utilisation thérapeutique de médicaments à base de fleurs de cannabis. Les prévenus, malades tous les quatre, cultivaient le chanvre pour se soigner et en donner au sein de l'association Alternative Verte à ceux qui pouvaient produire un certificat médical attestant d'une pathologie. Appelé à la barre une médecin des hospices universitaires genevois avait certifié que le cannabis pouvait être bénéfique dans certains cas et qu'elle le préconiserait s'il était considéré comme un médicament du point de vue légal. Donc c'est au futur, hein, pour l'instant, elle ne peut pas le préconiser, dit-elle.
Tout à fait,
mais bon, on sait bien que nous, il y a des médecins, on en connaît, hein, des médecins en Suisse, hein, qui le préconisent ouvertement depuis au moins 20 ans. Hein.
Oui.
Voilà. Donc le tribunal de police a exempté 3 des 4 prévenus de toute peine concernant leur culture et consommation de chanvre, ce qui est quand même une super bonne nouvelle. Il les a en revanche condamnés pour le fait de vendre ou de donner ce produit à des tiers à des peines allant de 60 à 150 jours amende avec sursis. Voilà. Les peines ont été réduites de moitié, par rapport au réquisitoire du ministère public. Mais mandant se demande quel est l'intérêt pour la collectivité de les punir et de les traiter comme des délinquants. En effet, des mandants, des malades en plus. Voilà. Bon. Je trouve qu'ils s'en sortent pas si mal. Ils auraient été condamnés en France. Ça a peut-être été différent, surtout que là, ils étaient 4 en plus. Donc, bon. Ils s'en sont pas si mal sortis. Et en tout cas, s'ils sont malades, ils ont, a priori, plutôt des bonnes raisons d'utiliser le cannabis à des fins thérapeutiques. D'autant plus bonnes que, jusqu'à présent, on savait qu'il y avait 104 cannabinoïdes. Et depuis une quinzaine de jours, depuis début juin, en fait, fin mai, on sait, d'après des chercheurs de l'Université du Mississippi, qu'il y en a maintenant 111 des cannabinoïdes.
Non, il y en a plus que 111, il y en a au moins 111 connus.
Voilà, identifiés. Avant 104 identifiés, maintenant 7 de plus, donc 111. Mais effectivement, peut-être que dans les prochains mois, les prochaines années, on en identifiera peut-être encore une cinquantaine de plus. Voilà. Donc pour faire cette recherche, cannabique ou cannabinoïde, ils ont utilisé 9 kilos de fleurs séchées de chanvre et qui ont été utilisées donc pour isoler entre 10 et 150 mg de chaque composé. Mais où est-ce qu'ils sont allés chercher les 9 kilos de fleurs de chanvre, franchement? Parce qu'au Mississippi, c'est pas légal. Alors ils sont allés au Colorado, si ça se trouve. Bref, on sait pas, ça c'est pas dit dans l'article. Les extraits se présentent sous la forme d'huile de couleur jaune ou de poudre blanche pour le dernier. Cette découverte permettra, nous dit-on, de mieux connaître la plante et ouvrir de nouvelles perspectives dans la recherche. Alors, si vous aimez les petits noms barbares, parmi les nouveaux cannabinoïdes suivants, il y a le 8-alpha-hydroxy-delta-9 tétrahydrocannabinol. Il y a aussi le 8-bêta-hydroxy-delta-9 tétrahydrocannabinol, le 10-alpha-hydroxy-delta-8 tétrahydrocannabinol, de 10-bêta-hydroxy-delta-8 tétrahydrocannabinol, le 10-alpha-hydroxy-delta-9-11 hexahydrocannabinol.
Moi, j'aime bien le 9-bêta, 10-bêta, époxy, hexahydrocannabinol.
Et le 11, et enfin pour finir, le 11, acétoxy, delta 9, tétrahydrocannabinolique, acide A. Voilà. Pour être au complet des... par rapport aux 7 nouveaux cannabinoïdes trouvés. Ah, peut-être écouter un peu de musique.
Ouais, quand même.
Allez, à tout de suite.
Petite fleur, usons nos pieds sur le bitume. Allons faire le tour de nos cœurs, de nos années qui se consument.
Ouais,
du quartier, du bois et du reste. Toi, mille douceurs, portant ton petit poids de plume, j'ai souvent calmé la douleur de tes tracas proprement, des soucis dont je te déleste. Bien sûr, tu m'as donné sans l'heure, oui, bien sûr, ensemble nous eûmes plus qu'il ne fallut de bonheur pour anéantir l'amertume de notre vie belle et modeste. Sonnera l'heure, comme pour tout père, je présume de te voir partir à me seul, au bras d'un garçon qui assume de savoir que je le déteste. Pauvre père jardinier en pleurs, mon âme triste qui s'embrume. Petite fille, petite fleur, ainsi notre vie se résume, des joies, des peines et quelques gestes.
Donc on revient au direct et on rattaque par un programme spécial américain dans les universités américaines. Évidemment, il faut bien que qu'on arrive à faire des choses là-bas aussi. Et donc, ils viennent de faire un nouveau programme scolaire sur 3 ans qui concerne les lois liées à la marijuana. Et donc dans cette université, donc à Denver, vous pouvez, pour $15,000 par an, soit $45,000 sur 3 ans, avoir un diplôme qui vous permettrait de devenir avocat sur les lois cannabiques et sur la marijuana. Et donc, ils ont même créé un nouveau professeur de droit et politique sur l'université.
Et oui.
Pour,
et oui, parce que il se passe quand même des choses au Colorado. Et c'est sûr que. Oui, voilà, excuse-moi, je t'ai coupé.
Non, j'avais fait un petit peu le tour de ce tout premier programme sur le cannabis.
Alors, créé, donc, en tout cas, c'est intéressant. Si vous voulez aller à l'université de Denver, participer à ces cours, moyennant 15 000 dollars par an. Hein.
Oui, quand même. Je l'ai dit.
Excuse-moi.
C'est dans les points.
Je me tais.
Voilà, j'étais plutôt sur la fin de l'article. Où le journaliste de Focus sur donc se rigole en disant qu'on ne va pas leur, qu'il espère qu'on ne va pas leur faire trop d'ateliers de dégustation de space cake, mais sinon ça risque d'intéresser. Ils auront des jours des cannabis journalisme aussi où ils devront aller faire des enquêtes sur des hommes qui travaillent ou qui pèsent dans le système cannabique dans leur état.
Ouais.
Si vous avez de l'argent, ouais. Rien à faire.
Enfin, en tout cas, ce qui est dingue, c'est que, les canactivistes américains, High Times, par exemple, qui est le journal de référence du cannabisme ou du canactivisme états-unien, je veux dire, tout ça, ils le savent déjà. Le journalisme, cannabis journalisme, enfin bon.
Il faut bien nourrir les chaînes d'infos locales et autres, quand même.
Oui, bien sûr.
Voilà. Et bon, ça leur évite de dire des conneries. Hein.
Tout à fait. Non, mais,
comme ça, ils peuvent devenir, s'ils sont forts.
Le savoir, l'éducation, l'instruction, c'est ça qu'il faut. On est bien d'accord. Mais bon, c'est pas nouveau, quoi. Alors, on n'a pas l'article en entier, mais en tout cas, si ça vous intéresse, et en tout cas, nous, on va essayer de se le procurer, c'est le dernier numéro, le numéro 189 de National Geographic de juin 2015, qui a fait un numéro spécial sur le cannabis, marijuana, un super médicament. Donc, c'est une enquête dans le National Geographic du mois de juin. Voilà, je pense que vous connaissez National Geographic, ou pas, bref, en tout cas, c'est un super journal. Un super magazine réputé pour ses photos de paysages, de différentes photos, de reportages paysagers, bref. Et en tout cas, voilà, ils font un méga article, un méga dossier sur le cannabis et notamment ses aspects thérapeutiques. On n'a encore pas l'article en entier, ça ne saurait tarder. Alors il y a des fois des articles qu'on n'arrive pas à voir, on les a plus tard, on n'en parle pas forcément dans l'émission, hein, on n'a toujours pas parlé du... L'article de Charlie Hebdo du mois d'octobre, qui était quand même vraiment bien. C'est un peu dommage. Voilà, qu'est-ce qu'on pouvait lire dans ce petit résumé de l'article? Parce qu'on n'a pas l'article en entier, parce qu'il faut payer. Donc, plus d'une centaine de familles ont déménagé pour raisons médicales vers la ville de Colorado Springs, la mecque des thérapies fondées sur la marijuana. Oui, nous parlons bien de la marijuana, la drogue, qui, comme l'opium dont fut extraite la morphine en 1805, possède des propriétés susceptibles d'en faire un médicament de premier plan. Il pourrait aider à lutter contre le glaucome, la sclérose en plaques, le sida, le cancer. Après 70 ans de blackout, les recherches médicales ayant été quasi totalement interrompues parce que le cannabis est aussi une drogue, c'est une révolution. En réalité, on découvre que les principes actifs les plus intéressants dans la plante ne sont pas ceux qui font planer. J'espère qu'ils donneront des infos plus précises, hein, parce que le THC, pour un certain nombre de patients, c'est important quand même. Bref, pourquoi se priver par principe d'un nouveau super médicament? Le débat demande au minimum une information claire et détaillée. Et donc, lisez notre dossier du mois, vous ferez votre propre opinion. Voilà.
Mais le cannabis a été considéré comme la panacée à un moment. Hein.
Ah oui, sérieux, c'est marrant parce que ça, je...
Le médicament miracle.
Mais quand? Parce que je me rappelle pas, là.
19e à peu près, hein. Quand il est arrivé...
Mais où?
On faisait des pâtes, des onguents en France, y compris en France, surtout en Angleterre.
Alors en Angleterre, oui, ça me paraît plus logique, mais moi je dirais au 18e plutôt.
Oui, 18e.
Parce que la reine d'Angleterre, oui. notamment, s'en servait pour ses règles douloureuses. Mais même, c'était la reine Victoria, et je crois que c'était même plus récent que ça, c'est même pas si vieux.
Le chanvre a été utilisé jusqu'à l'arrivée de l'aspirine quasiment.
Oui, le chanvre, oui, bien sûr. Ouais.
C'est jusqu'au milieu du 20e. Hein.
Oui. On t'entend très mal au micro.
Ah, pardon.
Faut que tu te rapproches ou que tu montes ton potard.
Ouais, tout à fait. Voilà. On va y arriver, oui.
Voilà.
On va se rapprocher, surtout.
Donc voilà, ce numéro de National Geographic, il faut qu'on arrive à se le retrouver. Voilà, maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de Saint-Ouen et de nos politiciens qui, une fois de plus, ne manquent pas de se ridiculiser face à la situation. Donc celui qui est en... étant arrive en pointe, c'est notre ministre de l'Intérieur, Monsieur Cazeneuve. Je crois que là, on aura tout vu à Saint-Ouen, quoi. Alors c'est bien là, il y a plusieurs articles. L'article du Parisien est pas mal parce que il nous résume un peu, il nous retrace un peu les différents, comment dire, les différentes méthodes et les différents, ce qu'on a essayé de faire en fait pour lutter contre le trafic à Saint-Ouen depuis Guéant et voire même avant. Parce que bon, avec ce qui s'est passé à Saint-Ouin, ça a fait couler beaucoup d'encre. Il y a quand même eu 160 personnes interpellées. Et depuis le mois de mai, hein, 160 personnes interpellées pour lutter contre le trafic de drogue. Donc on nous explique que fin mai, là, c'était mercredi, alors, avant le 28 mai, donc d'ici à la fin du mois de mai, 16 acheteurs de cannabis avaient été arrêtés et 15 étaient repartis libres après avoir accepté une transaction douanière. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné la drogue et ont payé une somme fixée par la douane. Donc voilà une espèce de comment dire de contraventionnalisation de l'usage avant l'heure, avant même que la loi existe. Mais avec les douanes, c'est différent. À défaut, donc si les personnes refusaient de lâcher leur substance, on les mettait en garde à vue. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'ils se sont mis à faire tout ça? Parce qu'il y a eu une fusillade ces derniers temps. Là, c'était fin mai, qui avait blessé 3 personnes à Cordon, la cité Cordon à Saint-Ouen. Voilà. Depuis, nous dit-on, les policiers redoublent d'efforts pour démanteler les trafics. Une demi-compagnie de CRS est installée à demeure, soit entre 30 et 40 hommes, et les douanes mettent les acheteurs à l'amende. Et M. Cazeneuve de répéter « Nous continuerons sans trêve ni pause ». Et ben oui, sauf que c'est pas nouveau, hein, ce genre de propos, c'est pas sans rappeler un ancien locataire de la place Beauvau, nous dit-on, l'UMP Claude Guéant, qui était à l'automne 2011, s'était mis à faire avait mis sur place les mêmes méthodes, hein, et notamment aussi après des violences armées, et il avait, comme à Sevran d'ailleurs, mis en place des CRS à demeure et la douane aussi en 2011. Il avait dit « ils resteront aussi longtemps qu'il le faudra », avait dit Monsieur Guéant. Et donc, effectivement, les CRS étaient restés des mois au pied des immeubles dans un premier temps, puis mobiles sur un périmètre un peu plus large plus tard, puisque le trafic reprenait à quelques rues de leurs fourgons. Puis, ben, les CRS s'en étaient allés. D'ailleurs, ceux qui sont déjà en poste à Saint-Ouen en ce moment, au bout d'un moment, ils s'en iront aussi. Le trafic fortement perturbé au début n'a jamais réellement cessé. Et a repris de sa vigueur et fait à nouveau couler le sang. Puis à l'automne 2012, M. Manuel Valls déclarait le secteur zone de sécurité prioritaire, la première d'une longue liste. Mais le trafic n'a pas pour autant été éradiqué et les balles ont continué à siffler, faisant même un mort en 2013, comme si l'histoire se répétait sans fin, montrant les limites de l'action publique, politique et policière et judiciaire. Si on engage un travail de cette nature... Pour que la République reprenne ses droits, on ne s'arrête pas au milieu du gué, avait dit M. Cazeneuve. Ce dispositif perdurera aussi longtemps que nous n'aurons pas réussi à aller jusqu'au bout en démantelant les trafics. Promis encore M. Cazeneuve, les CRS resteront, ou bien nous augmenterons les effectifs de police. Bref, ridicule quoi, ridicule. Je sais pas combien de CRS ou de policiers faudrait mettre à Saint-Ouen, je sais pas, 25 000 peut-être. Ouais. Un par habitant. Et on ruinerait l'État français de cette manière, parce que voilà, la lutte à la guerre à la drogue, ça coûte incroyablement cher et ça ne produit quasiment aucun effet. Alors ensuite, 20 minutes s'était penché sur le sujet, un peu pareil, hein, pour dire que voilà, il s'était mis à déployer, alors cette fois des policiers, des cavaliers montés, des policiers à cheval qui sont mis à rôder à Saint-Ouen. Tout ça pour effrayer les petits voyous qui n'ont pas l'habitude de voir des policiers sur des chevaux et qui n'ont pas l'habitude de voir des chevaux tout court et que du coup, eh ben, ils ont peur des chevaux, ils savent pas comment réagir et se comporter. Du coup, bah, ils se sauvent. Ils s'en vont en courant parce qu'il y a des policiers sur des chevaux au perché.
Qui ont des grands bâtons.
Qui ont des grands bâtons. Je prends un peu ce ton comme ça parce que je sais pas si vous voyez jusqu'où on en est. On en est arrivé. On est en train de faire croire aux gens en fait qu'on va vraiment éradiquer le trafic de drogue là parce qu'on a mis des policiers, 3 policiers sur des chevaux quoi. Enfin,
et forcément, c'est hallucinant. Dans tous ces jeunes qui courent, ils ont forcément une raison de courir. Donc, ils sont forcément guetteurs.
Oui, ils sont forcément guetteurs. Donc les guetteurs plus nombreux pourraient eux aussi être incriminés. Voilà. puisqu'on nous dit quand même qu'à Saint-Ouen, il y aurait jusqu'à 5000 acheteurs quotidiens qui se pointeraient, quoi, dans la cité du cordon. Et qu'en outre, les trafiquants sont obligés de recruter plus de guetteurs alors qu'ils font moins de ventes, leur chiffre d'affaires baisse et leurs dépenses augmentent. Alors que des riverains reprochent aux policiers de rester les bras croisés face aux guetteurs, bah, y a un policier qui dit, à juste titre d'ailleurs, bah, les gens doivent bien comprendre qu'on est dans un état de droit et qu'on ne peut pas interpeller quelqu'un qui n'est pas en train de commettre un délit. Et en l'occurrence, regarder autour de soi en haut d'un escalier, c'est pas interdit, en effet.
Tout à fait. Voilà. Donc, et heureusement. Ben, ça n'empêche pas qu'ils veulent créer maintenant la possibilité juridique d'incriminer les guetteurs en tant que complices sans que les vendeurs aient été au préalable arrêtés. Alors, je ne sais pas si ça passera cette loi,
mais c'est vrai que ça va faire un paquet de gens arrêtés, moi, je dis. Hein. Ça va faire un paquet de gens. Alors ensuite, bon, on ne va pas vous lire tous les débats parce qu'il y a trois articles. Il y en a un qui est intéressant avec des propos quand même cohérents. Alors c'était alors c'est marrant parce que j'ai repris les articles, je sais pas si c'était dans 20 minutes, mais en tout cas il y avait des échanges. Alors d'abord entre Sébastien Bégri, qu'on connaît au cirque, hein, expert des produits cannabinoïdes, et Valérie Boyer, maire des 11e et 12e arrondissements, qui en gros échange des arguments au sujet d'un changement de politique. Ensuite, Sébastien Bégri lui-même s'exprime. Il a créé Alpha 4, un kit d'analyse du cannabis, et fondé l'Union francophone pour les cannabinoïdes en médecine aussi, et qui explique de manière limpide en quoi la guerre à la drogue est improductive, et que en France on a des taux de consommation extrêmement élevés malgré la répression, hein, ce qu'on répète. Et puis c'était dans la Provence, voilà, dans la Provence de fin mai. Et enfin, pour terminer, c'était l'analyse, je sais pas comment dire, complètement incohérente, de madame Valérie Boyer, députée maire UMP du 11e et 12e arrondissement de Marseille, qui alors attendez, je vais pas vous lire toute son analyse bidon.
Elle est un truc inintéressant et après.
Mais bon, toujours pour dire les mêmes choses, hein, qu'il faut surtout pas légaliser parce que on va renforcer le trafic et que les produits vont être encore plus dosés, qu'il y aura encore plus de dealers, encore plus jeunes, que les gens vont encore plus consommer encore plus jeunes. Bref, alors qu'en fait, c'est justement la prohibition qui produit ça, quoi.
Voilà, plus on est dans le pays le plus prohibitif et on est dans le pays qui consomme le plus.
Mais effectivement, avec des gens qui raisonnent aussi mal, c'est pas étonnant qu'on ait un État qui fonctionne aussi mal. Ouais, aussi, parce que bon, si les politiciens qu'on élit savent pas réfléchir et sont incapables de raisonner convenablement, forcément, on va droit dans le mur. Et c'est pas que sur le cannabis, malheureusement. Les sénateurs se sont encore illustrés en amendant une loi sur le handicap le week-end dernier. C'est honteux ce qu'on peut lire, hein. Franchement, quand on a quand même des propositions, des articles qui ont été proposés dans cette loi sur le handicap, qui est quand même censé améliorer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite à des administrations ou des professionnels, des médecins, et donc il y a des constructions, des travaux à prévoir. Les sénateurs, quand même, la majorité ont voté en disant non, on va pas faire ça, on va plutôt dire qu'il faut porter les handicapés. Les porter. Non, mais on met ça dans une loi, c'est quand même incroyable, quoi. Donc non, c'est honteux. Enfin, je comprends pas même comment on arrive à avoir des élus aussi lamentables, quoi, qui sont là à amender des textes de loi en disant on va porter les gens au lieu de faire des rampes d'accès pour tout le monde, pour toutes les personnes à mobilité réduite. Enfin, et puis il n'y a pas que ça, quoi. Je vous invite à aller sur le site de l'APF, l'Association des paralysés de France, si vous voulez lire le communiqué de presse des responsables de l'APF, quoi, qui réagissent aux débats sénatoriaux la semaine dernière. C'est incroyable. Voilà, malheureusement. Pourquoi docteur.fr?
Ouais, non, mais je voulais
passer, vu
l'heure qui tourne, rapidement,
oui, ça tourne.
Un fait dont on a parlé plusieurs fois, c'était ce fameux cannabis de synthèse. Vous savez, qui a défrayé la chronique
à Annecy,
autour d'Annecy,
cet hiver, là.
Qui est venu à plusieurs reprises, dont on cherchait, voilà, tout ça, ils ont, d'où venait cette nouvelle drogue, qu'est-ce que c'était, etc. Donc, c'était une adolescente de 16 ans qui se livrait à ce trafic. La seule chose qu'ils disent pas, c'est comment elle se procurait son cannabis de synthèse. Mais en tout cas, comme il n'était pas classé comme un produit stupéfiant, elle n'a pas été condamnée sur la loi des stupéfiants, mais sur l'administration de substances nuisibles et la vente de substances présentées comme un stupéfiant. Ces produits, entre parenthèses, entre guillemets, légaux, donc c'est des pilules qu'elle achetait sur Internet, cannabis de synthèse, et donc elle revendait ça. Et donc, pour certains, ce cannabis de synthèse unique était nocif. Donc, il y a eu quand même une dizaine d'hospitalisations et de cas graves. Voilà, on en avait parlé, on se demandait d'où ça venait, qu'est-ce que c'était. Donc, après des mois d'enquête.
Oui.
Voilà les résultats.
Voilà, donc cannabis de synthèse, bof, dégueulasse, quoi.
Voilà, dégueulasse et. Au moins, on en a.
Mais bon, vu que le vrai cannabis est criminalisé et tout ça, vu toutes les conneries qu'on entend, pas étonnant qu'il y en a qui disent « Ah bah tiens, on va essayer de trouver du cannabis de synthèse sur Internet, ça c'est sûrement mieux. » Voilà, c'est vraiment regrettable. Un effet pervers de la prohibition aussi.
Voilà. Et sinon, moi, dans l'autre article que j'ai bien aimé, c'est quelque chose d'un petit peu archéologique, dans l'Express, dans les Insolites, sur des pipes à eau vieilles de 2400 ans, découvertes en Russie. Donc, c'était le peuple des Scythes, un peuple nomade, donc d'Eurasie, qui a ça. Et donc, les pipes à eau auraient appartenu aux Scythes, donc ce peuple-là. Donc, il y a quand même quelques millénaires déjà. Et qu'est-ce qu'on peut dire surtout, c'est ce qui était intéressant, c'est que donc dedans c'était quand même des pipes à eau en or pur hein, qui étaient enfouies,
pas en plastoc quoi.
Et que dessus donc elles avaient été utilisées, hein, c'est pas bien, il faut pas utiliser les pipes à eau. Et dedans on trouvait des traces simultanées en fait. Ces pipes à eau étaient utilisées aussi bien pour le cannabis que pour l'opium, les deux étaient fumés avec les pipes à eau. Donc voilà, c'était assez intéressant de le noter. Donc on n'utilise pas ce produit que depuis les années 1970 et la mode hippie. C'est pas la mode hippie qui a créé le cannabis, loin de là.
Et puis le polyusage n'est pas nouveau non plus, hein, puisque là. Ce qu'ils faisaient, c'est quand même qu'ils utilisaient le cannabis et l'opium en même temps. Et qu'apparemment, ça faisait un effet. Un effet puissant, parce que l'effet d'extase était tel que les Scythes hurlaient, à en croire le géographe qui a écrit l'article, que les deux drogues étaient utilisées simultanément, ça ne fait aucun doute. Donc visiblement, ils savaient comment en tirer la quintessence. Voilà.
On continue. T'as un petit article qui te plaît particulièrement ou...
Plein d'articles.
Voilà, sinon, moi, j'avais bien aimé aussi Suzanne Sarandon. Mieux vaut une bonne fumette que de la boisson. Voilà, c'est une actrice, hein, Suzanne Sarandon.
Voilà, après Morgan Freeman, il y a à peu près 3 semaines, qui lui-même, qui avouait être un utilisateur régulier et satisfait de son usage du cannabis. C'est cette fois Suzanne Sarandon, donc voilà, qui reconnaît en consommer régulièrement, pas pour son boulot, dit-elle, mais qu'elle en fume assez régulièrement, qu'elle en a parlé avec ses enfants. Voilà. Elle dit comme ça, c'est absurde de voir que si peu d'État l'est légalisé. Certains gamins ont ralenti leur crise d'épilepsie en utilisant la marijuana thérapeutique. Ça soulage aussi les vétérans des guerres. Et aussi une merveilleuse manière de sociabiliser et de vivre ensemble. Voilà. Ah oui, c'est Whoopi Goldberg également, qui est une autre actrice qui l'année dernière, avait reconnu en utiliser régulièrement. En tout cas, les langues se délient aux États-Unis. Que ce soit dans le monde des médias ou chez les artistes, les acteurs qui reconnaissent en utiliser. Je ne suis pas sûr qu'on aurait entendu de tels propos il y a quelques années, mais là, il y a vraiment une vague, à mon avis, de fond profonde hein, dans la société américaine qui est en train de.
Oui, les sondages
déferler.
Le montrent. Hein, ça y est, on dépasse les 50% quasiment dans toutes les États-Unis. Il y a plus que 40% des gens qui sont contre. Voilà, c'est en train de basculer.
Voilà, et... c'est un sondage de CBS News qui a été mené au mois de avril-mai. Et voilà, effectivement.
Ah, parce qu'on a parlé des trois États qui avaient légalisé, mais il faut dire aussi qu'il y a 11 États qui ont décriminalisé l'usage. Donc voilà, voilà ça avance à plein de points de vue au niveau des États-Unis.
Et une vingtaine d'États qui annoncent changer leur loi dans les prochaines années. Voilà. D'ici 5-6 ans, voire même avant, enfin d'ici 2-3 ans, il y a des chances que la moitié des États des États-Unis aient changé leur loi. Et d'ici 5-6 ans, je pense que la majorité des États-Unis auront revu leur législation. Et donc, une fois que tous les États ou quasiment tous les États auront changé leur législation, ben, je pense que la légalisation sera vraiment plus très loin pour les Américains, les États-Unis. Alors, surtout qu'en plus, il n'y a pas que... comment dire, aux États-Unis où il se passe des choses, le Canada est en train de devenir, enfin le Canada est en train de devenir
centre de référence international.
Merci.
Surtout au niveau médical et donc qui crée
Montréal. C'est Montréal qui devient un pôle mondial de recherche sur le cannabis médical.
Voilà, ils font le CUS, mais en fait qui est une base de données qui essaie de rassembler l'ensemble des dossiers médicaux existants sur le cannabis pour essayer de relancer donc toute la recherche là-dessus. On arrive au terme. Il faut rappeler quand même les événements qui arrivent, donc le 18 juin surtout, à Lyon,
oui,
à 18h.
À 18h, comme tous les 18 juin, à 18h, au Parc des Berges à Gerland, Lyon 7e, arrêt tram T1, Altony Garnier. De 18h jusqu'à 23h normalement.
Voilà.
C'est un rassemblement festif pour les différentes applications du chanvre. Hein, donc c'est pas une manif. Il y aura de la musique, il y aura Breda Sound System, Zion High Foundation qui vont sonoriser le rassemblement. Donc jusqu'à 23h avec de la musique. Jusqu'à 22h pour boire un petit coup. À partir de 22h, nous n'aurons plus le droit de vendre de bière. Ça c'est la législation. Mais on aura l'autorisation de rester festoyer jusqu'à 23h. On a gagné une heure, normalement. Je dis bien normalement, parce que c'est très compliqué entre les autorisations de la mairie, les informations qui sont données aux policiers municipaux qui sont là un peu pour surveiller et de nous dire de partir à tel moment. Ou tel moment, malheureusement, les infos passent pas forcément très bien. C'est quand même l'appel du 18 juin, c'est quand même relatif au cannabis. On n'est pas forcément soutenu par les autorités, voire on l'est pas du tout. Même si on nous donne quand même l'autorisation de faire ce rassemblement, ce qui était quand même plus compliqué une quinzaine ou une vingtaine d'années. C'est quand même un truc un peu polémique et sensible. Le 17 juin aussi. Alors le 18 juin, ce sera à Lyon, à Paris, à Marseille, à Toulouse, à Bourges, je crois, à Limoges, à Poitiers, à Rennes, à Nantes, c'est sûr. À Rennes, je suis pas sûr. À Tahiti également, à Nouméa, à Papeete, à Tahiti, Papeete, pardon, à Saint-Denis-de-la-Réunion. Un peu tout ça.
Quoi de partout, 18 juin, 18h. 18 juin, 18h, vous pouvez même venir à partir de 17h, hein, on peut toujours donner
un coup de main.
Et voilà.
Et donc, sinon, le débat, la guerre à la drogue, protège-t-elle vraiment nos enfants, mercredi 17 juin, à Médecins du Monde, 62 avenue Marcadet, Paris, 18h, à partir de 19h30, on en parlera la semaine prochaine. Et préparez-vous aussi à Support Don't Punish, vendredi 26 juin, à Paris, Marseille, Toulouse et Montpellier. Toutes les informations sur le site de l'AFR et le site du Cirque Lyon également, cirquelyon.fr. Voilà, Cirque Lyon 06 11 53 10 07, si vous voulez nous passer un petit coup de fil.
Allez, je le répète, 06 11 53 10 07.
Et vous pouvez nous envoyer un mail, cirque-lyon@no-log.org, tous les tirets sont les tirets du milieu. Vous pouvez nous écrire, Cirque Lyon, BP 93 043, 69 605, Villeurbanne, CEDEX. Et voilà, c'est la fin de Cannabis Circus. On vous retrouve sans faute la semaine prochaine. Et maintenant, c'est Chasseurs de Son jusqu'à pas d'heure. Jusqu'à au moins 23h. Allez, c'est parti. À la semaine prochaine. Au revoir.